Europe Matin.
6h, 9h, Lionel Gougelot.
6h10 sur Europe 1, le premier invité de la matinale, Michel Vizeau. Bonjour Michel Vizeau.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien, ancien responsable du programme d'exobiologie au Centre National d'Études Spatiales. L'exobiologie, c'est la recherche de la vie dans l'espace, hein, c'est bien ça ?
Voilà, c'est une forme de vie qui ne serait pas sur Terre.
D'accord. Demain, Michel Vizeau, une fusée Ariane décollera depuis Kourou pour envoyer donc dans l'espace, je le disais, le plus grand télescope spatial jamais conçu. On l'appelle le James Webb. C'est un peu le petit frère Double, mais en plus performance, c'est bien résumé ?
Ah, c'est plus que le petit frère, c'est le frère géant de Hubble.
Oui. Enfin, quand je dis petit frère, c'est en termes de génération, quoi. Voilà.
En termes de génération, ouais. En beaucoup plus performant, voilà. Et surtout, il ne regarde pas exactement dans la même zone.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il l'utilise, il va regarder principalement à faire des mesures dans l'infrarouge, c'est-à-dire dans la zone de la lumière que l'on ne voit pas avec notre œil, alors que Hubble est plutôt dans le visible et puis dans les ultraviolets. Donc il va regarder des choses différentes.
Quels sont les objectifs de la mission, Michel Vizeau ?
Alors, les objectifs, il y a quatre grands objectifs, et bien sûr, ça va être décliné de façon différente. Le premier, c'est de regarder les âges les plus noirs de l'univers, c'est remonter le plus dans le temps possible, justement en utilisant les capacités de cette détection dans l'infrarouge d'un certain nombre d'éléments de notre galaxie, des premières galaxies. Et donc ça, c'est un peu la cosmologie, etc. Ensuite, c'est comprendre comment fonctionne les galaxies, et donc il va être capable d'observer dans l'infrarouge toutes les galaxies, enfin, un grand nombre de galaxies, et donc on va comprendre comment se forment les galaxies, comment elles évoluent, comment elles fusionnent, etc. Enfin, le troisième point, ça va être de comprendre comment se forment les étoiles et où est-ce qu'elles se forment, parce que là aussi, c'est en infrarouge, on est capable de transpercer la poussière et de voir ce qui se passe derrière. Et c'est là notamment qu'on va se former les soleils et ce qu'on va se former donc les étoiles. Et enfin, il va nous servir à détecter des exoplanètes. Alors, c'est ce qui intéresse les exobiologistes, bien sûr.
Évidemment.
C'est à détecter un peu la composition d'un certain nombre d'exoplanètes qui sont celles qui sont les plus proches de nous. Et puis aussi d'observer les objets et les planètes et les planètes naines de notre système solaire, de façon à mieux les connaître, à mieux comprendre comment est-ce que notre système solaire a évolué depuis 5 milliards d'années.
Donc si je vous comprends bien, Michel Vizeau, on est peut-être à l'aube de découvertes assez exceptionnelles.
Alors ça va être une révolution dans tous ces domaines-là, parce qu'on va regarder le ciel dans une continuité que l'on n'a jamais vue. Et donc, on va accumuler des connaissances et des observations nouvelles qui vont renforcer ou détruire des théories nouvelles ou anciennes.
Et se rendre compte que jusqu'à maintenant, on ne savait rien, finalement ? Ça peut aller jusque-là ?
Non, vous savez, la science, elle rend les choses un peu obsolètes, mais elle n'annule pas les connaissances déjà acquises. Et elle se construit sur les connaissances déjà acquises. On va peut-être remettre en cause un certain nombre de connaissances que nous avions jusqu'à présent.
Par exemple,
sur la période qui a immédiatement suivi le Big Bang, qu'on appelle la rayonisation.
Ouais.
Alors là, on sort un peu de mon domaine de compétence, mais le moment où les étoiles se sont formées, où le rayonnement est apparu et où les atomes ont perdu un certain nombre d'électrons et la lumière a pu apparaître, on va aller jusqu'à cette période-là qui remonte à 15 milliards d'années pratiquement. Mmh. Et donc là, il y a peut-être 200 théories différentes, on va peut-être en détruire 50 ou 60 et puis on va en créer peut-être 150 de nouvelles, j'en sais rien. C'est le plaisir de découverte. Là, on va vraiment, il faut être prêt à être surpris en permanence, il faut être prêt à découvrir des choses étonnantes.
Et dans le domaine de l'exobiologie, donc, qui est le vôtre, la recherche de la vie dans l'espace, vous avez, vous, personnellement, quelques espoirs, quelques attentes, en tout cas ?
Alors, on ne va pas découvrir E.T. En train de se promener,
oui,
ou des choses comme ça.
D'accord.
On ne va pas
d'accord.
aller jusque-là.
Ouais.
Simplement, vous savez, cette recherche est très difficile parce que l'interprétation est toujours délicate. Et donc, ce qu'on va comprendre, c'est comment les planètes se forment, est-ce qu'elles ont des atmosphères, pour certaines, hein, parce qu'on ne peut pas regarder très très loin malgré sa grande puissance. Et on va être capable de détecter éventuellement la composition de quelques atmosphères de planètes. Et donc, à partir de là, on verra leur évolution, est-ce que la Terre primitive était unique ou pas, et est-ce qu'il y a des planètes qui sont semblable, ouais. un peu semblable ou très semblable à notre bonne vieille Terre.
Ouais, ça c'est le rêve ultime, hein, de découvrir notre comment dirais-je, une planète jumelle d'une certaine façon.
Alors oui, si on trouvait déjà une petite cousine, ça serait bien en état de fonctionnement, parce que ouais. Mars c'est une petite cousine, mais c'est un peu ramougri, elle a perdu son atmosphère.
Effectivement.
Donc voilà, on voudrait trouver une petite cousine qui ressemble beaucoup à la Terre et qui donne un peu l'espoir de détecter, de penser que une forme de vie a pu se développer ailleurs que sur notre planète si belle et si bleue. Mmh.
Revenons un peu sur l'aspect défi technologique, si vous le voulez bien, Michel Vizeau. Je lis que ce télescope est un comment dirais-je, au top de la technologie, hein, si vous me permettez cette expression un peu familière. 10 milliards d'euros de matériel, c'est bien ça, emporté par la fusée aérienne ?
Oui, alors bon, 10 ou 12 ou 14, ouais, c'est beaucoup. Hein,
ça veut dire que ça fait l'objet d'un investissement exceptionnel.
Mais c'est un investissement, c'est un travail exceptionnel. Il faut savoir que tout cet argent-là, ce n'est que du travail derrière.
Oui.
Donc, oui, effectivement, ça fait pratiquement 40 ans qu'on est en train que les gens sont en train de travailler dessus. Et à chaque étape, c'est un défi technologique parce qu'il doit travailler à moins de 135 degrés. Alors que il y a une face qui est exposée à plus 125 degrés, donc il faut absorber un gradient de température, par exemple, de pratiquement 400 degrés. Mmh. C'est absolument énorme. Il faut que le miroir qui est segmenté, hein, avec son apparence en nid d'abeille, il faut que les choses soient ajustées à peu près à quelques 10 milliardièmes de mètres.
Oui, d'accord, oui.
c'est pas du bricolage. Ouais, donc, ouais. Et l'astuce, c'est que comme on ne peut le tester qu'une fois en vol et à des températures pareilles, qu'on ne peut pas obtenir dans des chambres assez grandes sur Terre, mm-hmm. il a fallu le sous-dimensionner pour être sûr qu'on pourra arriver à ce moment-là à le faire. Donc, c'est un travail à la fois de modélisation, c'est un travail technique, aussi bien, je dirais, les gens qui rabotent le métal que les gens qui font les calculs de contraintes. C'est absolument phénoménal d'être capable de faire ça.
Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il va mettre plusieurs semaines à atteindre sa destination, son poste d'observation dans l'espace, hein, si je peux me permettre l'expression. Et les premières images ne seront disponibles que dans 6 mois. Hein.
Eh bien oui, parce que il faut d'abord le déployer. Hein. C'est un origami. Il ne faut pas qu'il y ait de faux plis quand on le déploie, donc déjà c'est un premier point. Et ensuite il va voyager pendant donc un mois et demi, et après il faut qu'il se refroidisse pour avoir des images. Il faut que le cœur du télescope soit à moins de, on appelle 50 Kelvin, hein, donc moins de 135 degrés,
ouais.
Et il faut qu'il se refroidisse, et donc ça prend du temps. Simplement, il faut qu'il se refroidisse, et dans l'espace, on se refroidit simplement par radiation. Il n'y a pas de convection, il n'y a pas de l'air qui rafraîchit, hein. c'est pas un drap qu'on a suspendu dehors. Et donc, ça prend beaucoup de temps d'atteindre ces températures extrêmement basses.
Pour Ariane, Michel Vizeau, c'est un défi assez particulier, compte tenu, encore une fois, de l'investissement qui a été mis dans ce programme James Webb Télescope.
Alors oui, c'est un défi. Alors il faut se dire une chose, c'est que tout lancement est un défi. Hein. Je signale qu'une Ariane, ça pèse 2 rames de TGV, et c'est ça qu'il y a sur le papier et qu'il faut envoyer à 100 km en moins de 5 minutes. C'est quand même quelque chose de phénoménal.
Ouais.
Bien sûr. Et alors moi, je vais dire quelque chose qui vient plus de mon habitude d'exobiologiste et de praticien d'un certain nombre d'affaires spatiales.
Mm-hmm.
Il faut surtout faire comme d'habitude. Il ne faut jamais déroger.
D'accord.
Il faut être la rigueur. Un lancement, je ne suis pas spécialiste du lancement, mais un lancement, c'est de la rigueur qui commence 5 ans avant et qui s'arrête au moment du lancement. Et bien, cette rigueur-là, il faut l'appliquer systématiquement sans avoir de pression supplémentaire. Ça ne veut pas dire que les gens ne stressent pas. Hein. Mais ça veut dire qu'on ne laisse rien au hasard. Mais chaque lancement, c'est le même sérieux, la même rigueur que l'on doit avoir. Je dirais que le James Webb est un pari extrêmement intense, extrêmement difficile, mais c'est un lancement comme les autres lancements. Et donc, il faut garder... Alors, il y a quelques particularités, parce que c'est une orbite spéciale, il faut avoir une certaine vitesse très particulière au moment de l'injection sur la trajectoire, parce que James Webb va partir directement vers sa destination.
Destination. Hmm.
Alors, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Donc, ouais. Ça fait 5 fois la distance Terre-Lune à peu près. Et donc ça, après c'est du calcul, c'est pareil. C'est énormément de travail de calcul, de modélisation et de travail technique pour être sûr que tout soit prêt au bon moment et que tout soit vert quand on décide de lancer, d'appuyer sur le bouton de démarrage des boosters.
On n'a plus qu'à croiser les doigts au centre spatial guyanais de Kourou donc pour cette fusée Ariane et ce James Webb télescope. Merci infiniment Michel Vizeau, astrophysicien, ancien membre du Centre national d'études spatiales. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Il est 6h20 sur Europe 1. Bonne journée.